Discorde éthique par la Pemerie Dominique Philippe, le 19 décembre 2001 à Saint-Judas.
Si on peut parler, c'est une question, hein, si on peut parler d'une adoration comme une réponse personnelle d'amour à partir de la découverte de Dieu dans la théologie naturelle, peut-on parler aussi d'un développement d'une théologie mystique où je cherche à approfondir ce qui est l'objet de mon adoration. Ce qui est l'objet de mon adoration ne relève pas d'une théologie mystique. Allez. Il n'y a pas de philosophie mystique. Ça a été essayé chez Plotin. Chez Plotin, il y a une certaine philosophie mystique. Je me souviens, avec Marita, de ce temps-là, on discutait très longuement pour savoir si la position de Plotin était une philosophie mystique ou tout simplement les conséquences même de sa philosophie. Bon. Pour qu'il y ait théologie mystique, il faut que Dieu se donne à nous comme notre propre fin. C'est par le développement de la causalité finale que se fait une théologie mystique. Or, au point de vue philosophique, je découvre Dieu, évidemment, comme fin. C'est sûr. Comme créateur, comme père de mon intelligence. Mais je ne peux pas dire que je découvre la paternité de Dieu au sens très fort où il me donne son héritage. Puisque la paternité au sens très fort, c'est le don de l'héritage. L'héritage du Dieu, c'est quoi? C'est lui-même. C'est sa vie. Or, point de vue philosophique, je découvre Dieu comme créateur. Et je ne peux pas dire que j'ai la même vie que Dieu. Je découvre Dieu comme fin ultime vers laquelle je tends. Mais je n'ai pas la vie de Dieu. Par la révélation, par la grâce, j'ai la vie de Dieu qui m'est donnée. Et Dieu se donne comme Père en me donnant son Fils bien-aimé. Et donc je développe cette vie de Dieu qui m'est donnée. Et non pas Dieu comme découverte de la création. Donc, il n'y a pas de philosophie mystique, puisque Dieu peut se révéler aux philosophes, ça se peut, qui s'est révélé peut-être à Plotin. C'est possible. Puisque on a rencontré Plotin dans une extase qui a duré 3 jours. Il était complètement perdu dans son... C'est possible. Mais il ne le montre pas comme ça. Il le montre comme une réflexion philosophique sur la vie de Dieu et que je participe à cette vie et que j'aurai la même vie de Dieu. Donc, vous voyez, je peux simplement dire que je peux philosophiquement étudier ce que nous essayons de faire. Philosophiquement, nous essayons de découvrir la contemplation propre de Dieu, sa vie propre. C'est pas ma vie, c'est sa vie. En théologie mystique, sa vie est la mienne. Il y a une expérience propre. Et grâce à la foi et à l'amour, la charité, ma vie de Dieu, c'est ma vie. Tandis qu'au point de vue philosophique, je ne peux jamais dire que la vie de Dieu est ma vie. C'est l'erreur de tous ceux qui ne distinguent pas assez nettement le point de vue naturel, le point de vue surnaturel, et gueulent, tombent dans cette erreur. D'une façon très curieuse, puisque en tant que luthérien, je ne peux pas connaître Dieu par l'intelligence, en tant que luthérien. Il dit « je suis luthérien ». Donc on ne peut connaître Dieu que d'une façon surnaturelle. Alors d'une façon surnaturelle, il recherche l'existence de Dieu, non pas uniquement par l'Évangile, mais au fond, d'après sa philosophie. Alors il y a un mélange. Et c'est pour ça que c'est difficile de le réfuter, parce que il pourra toujours se rattraper. Mais dans notre philosophie, celle qui recherche Dieu et dans celle que le Saint-Père nous demande d'avoir, nous distinguons nettement l'ordre naturel, l'ordre surnaturel. La foi est d'ordre surnaturel. La charité est d'ordre surnaturel. Et alors je connais à ce moment-là la vie intime de Dieu. Elle m'est révélée par Jésus. Elle m'est révélée. Alors je peux parler d'une théologie mystique. Mais il n'y a pas de philosophie mystique. Philosophiquement, la vie de Dieu, je dois l'étudier à partir même du mystère de Dieu. Je peux étudier autant que je puis la vie même de Dieu. Mais je le fais philosophiquement, comme étant la vie de l'être premier. Je ne touche pas à la très sainte Trinité. Donc la vie intime de Dieu, elle m'échappe. Donc. Alors continuons notre recherche d'éthique religieuse et regardons alors comment le problème de l'amitié qui m'a servi pour aller jusqu'au bout de mes recherches philosophiques. Ça oui, et je crois que on peut et on doit le faire. La voie ultime par la finalité me fait découvrir un être premier, une personne première, et l'amitié peut être la disposition la plus parfaite comme expérience pour affirmer l'existence d'un premier spirituel et affectif. Une fois que j'ai découvert l'existence de Dieu et que je suis en philosophie, en éthique religieuse, je peux de nouveau regarder ce problème très important de l'amitié. Il, loin d'être supprimé, il reprend au contraire une nouvelle valeur. Alors c'est ça que je voudrais regarder avec vous. Chercher, on cherche. L'amitié peut exister pour quelqu'un qui n'affirme pas l'existence de Dieu, c'est sûr. Et l'amitié demeure à ce moment-là la plus grande expérience humaine que je puisse avoir. Et donc si l'amitié est la plus grande expérience humaine que je puisse avoir, elle peut être une disposition magnifique à découvrir l'existence de Dieu. Parce que c'est l'expérience la plus forte que j'ai de la finalité. C'est l'expérience la plus forte. Et l'expérience la plus forte que j'ai aussi de l'amitié, de la personne humaine. Dès que j'ai découvert l'existence d'un être premier en qui la vie ne peut être que contemplative, la pensée de la pensée, c'est sa contemplation. Et je peux préciser ça, que Dieu a comme vie une vie contemplative. Et cette vie contemplative, c'est de se contempler lui-même. Noésis, Noéseos. La contemplation de sa contemplation. La contemplation de lui-même. Et que cela est la vie propre de Dieu. Que Dieu peut s'aimer lui-même d'un amour parfait. Et que Dieu s'aime lui-même d'un amour parfait. À la lumière de cette vie de Dieu, je peux de nouveau regarder l'amitié que j'ai avec mon ami. Et je vois que dans cette amitié, dans cet amour extrêmement pur et extrêmement profond que j'ai avec mon ami, l'amour se développe en moi d'une façon la plus belle qu'elle puisse être. Et par le fait même, cet amour que j'ai pour mon ami va se prolonger sur Dieu, qui est le créateur de mon âme et de l'âme de mon ami, Donc, cela présuppose qu'ayant découvert cet être premier, je le découvre tout de suite comme mon créateur. Et comme donc celui qui réalise son mystère de la création de la manière la plus parfaite dans l'amour d'amitié, c'est-à-dire que le gouvernement de Dieu, c'est le gouvernement. Dès que je suis dans l'activité, c'est Dieu qui me gouverne. Le gouvernement de Dieu sur moi a une plénitude très unique. Je suis au sommet du gouvernement de Dieu sur moi. Quand je dis au sommet, faisons attention, parce que le sommet du gouvernement de Dieu sur moi, c'est que je découvre Dieu. Je découvre Dieu dans son amour, dans sa connaissance. Quand je me replie sur mon amour d'amitié, ce n'est pas le sommet du gouvernement divin. C'est juste après ce sommet, je puis aimer mon ami d'une façon nouvelle, en tant que par sa découverte de Dieu, il est ordonné vers Dieu, mais il ne sait pas jusqu'où il peut aller dans cet amour. Il reste comme un grand désir d'être le plus proche de Dieu. Mais ce désir est terriblement limité, puisque la connaissance que j'ai de Dieu est surtout négative. La connaissance naturelle que j'ai de Dieu est très négative. Je n'ai pas naturellement une expérience de son amour. Non. J'ai l'expérience de son amour pour moi comme créateur et comme me gouvernement, comme me gouvernant comme père. Mais je n'arrive pas et je ne peux pas préciser exactement la finalité où il me conduit. Si je reste uniquement dans le point de vue de la connaissance philosophique, je ne sais pas. C'est très grand de voir que ce qu'il y a de plus élevé en moi, ce qu'il y a de plus grand en moi, est cette contemplation de Dieu. Mais cette contemplation de Dieu, elle n'est pas directe. Elle ne repose pas sur un amour où Dieu m'appelle à vivre sa vie. Elle est une connaissance analogique que j'ai de Dieu. mais pas une connaissance directe, pas un amour non plus direct. Je reste en expectative. Qu'est-ce que Dieu fera de moi? Je ne le sais pas. Alors que, au plan surnaturel, je le sais. Au plan divin, je le sais. Par la foi et par l'espérance. Je sais qu'un jour, je verrai Dieu tel qu'il est. Et philosophiquement, je ne peux pas le dire. Philosophiquement, je peux simplement dire que Dieu est père de mon intelligence, père de mon affectivité, de mon amour, mais qu'il n'a pas précisé pour moi, parce que je n'ai pas la foi, il n'a pas précisé ce qu'il voulait faire de moi. Je sais qu'il m'aime. Et je sais que l'amour de Dieu pour moi ne peut pas être vain. Vanum. Ne peut pas être vain, c'est-à-dire ne peut pas ne pas avoir de finalité. L'amour de Dieu pour moi est sage. Puisque tout ce que Dieu fait est sage. Donc l'amour de Dieu pour moi est sage. Par le fait même, il implique une finalité. Quelle est cette finalité? Exactement, je ne le sais pas. Je ne peux que m'abandonner entièrement à lui. Me remettre entièrement à lui. Je ne peux pas faire autre chose. Cela me fait mieux comprendre qu'au point de vue surnaturel, je sais qu'il y a une amitié avec Dieu par la charité et donc que Dieu m'enveloppe paternellement avec affection, pour que je vive du même mystère que lui. Et je sais que Dieu me communique sa grâce pour que je vive avec lui. Et je vive comme lui le veut. Et ça, philosophiquement, je ne sais pas. Donc, philosophiquement, je ne peux faire qu'une seule chose, c'est de m'abandonner complètement à son amour, sans savoir ce que je deviendrai, ce que Dieu a préparé pour moi. Mais je peux être sûr que Dieu ne m'abandonnera pas, que Dieu a nécessairement déterminé quelque chose pour moi, puisque Dieu est sage. La sagesse interdit de dire que Dieu n'a rien déterminé pour moi, sûrement pas. Je crois que là, on voit bien la différence entre celui qui croit au Christ comme sauveur, comme reprenant tout par lui, et celui qui cherche. C'est très, très différent. Et je vois que le point de vue de la foi me détermine avec exactitude que ma fin est de voir, d'espérer de voir Dieu face à face. Mais je ne peux pas l'affirmer en philosophie, en théologie naturelle. Je peux simplement dire que nécessairement Dieu a sur moi sa finalité. Alors, je me place comme philosophe cherchant cela, sachant qu'autour de moi et en moi, il y a le croyant. Est-ce que je pourrais aller plus loin ? Je peux très bien affirmer que je ne peux pas déterminer plus, mais je sais que tout est déterminé plus. Je ne peux pas laisser le vague dans la causalité finale. Mais Dieu peut aussi très bien ne pas me le révéler. Ça, c'est sa liberté. Je sais très bien que Dieu un jour me le révélera. Mais il ne peut pas me le révéler pour moi tout seul. Il me révèle comme ça. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin, mais qu'on peut et qu'on doit affirmer que nécessairement Dieu a sur moi une finalité précise et qui ne peut pas laisser ma fin dans le vague. Il peut me laisser dans le vague pendant la route. Je sais suffisamment pour me diriger vers Dieu, mais qu'un jour, il me le révélera. Avec la foi, je sais que cette révélation est déjà faite pour moi et pour tous ceux qui croient. Et pour ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas encore la grâce de croire, ils peuvent affirmer, s'ils sont philosophes, que Dieu, comme être suprême, et comme sage, a nécessairement sur moi une connaissance déterminée, une finalité déterminée, et que je ne la sais pas. Je crois que cela est important. Parce que, sachant cela, que Dieu a nécessairement sur moi, en tant qu'esprit, une détermination, je dois vivre avec ce souci de cette détermination, en acceptant de ne pas avoir de précision, mais en la cherchant. Je pourrais chercher en sachant qu'il y a des livres révélés, qu'il y a une révélation. Que dit cette révélation sur l'homme ? Vous voyez ? c'est une indétermination qui exclut de cette indétermination, qui exclut Dieu de cette indétermination. Dieu est sage. Et donc, il sait la finalité de l'homme. Et il sait comment il peut l'acquérir et comment il doit l'acquérir. Et il le sait aussi et il le communique à certains instruments. C'est possible d'aller jusque-là. Vous voyez, ça présuppose une certaine connaissance de la sagesse de Dieu. Dieu ne peut pas laisser sa créature créer avec l'intelligence. La laisser vaine. Vanum, c'est-à-dire sans fin, sans finalité. Quand vous n'avez pas de finalité, votre activité est vaine. Parce que votre activité demande d'être finalisée. Alors elle peut être plus ou moins finalisée. Elle peut être finalisée dans le Christ, et que je ne sais pas encore. Et je marche alors avec la connaissance que j'ai. Je marche en sachant que je suis dans les mains du Christ. Donc vous voyez, l'éthique religieuse peut aller jusque-là. Donc affirmer le primat de la contemplation. Affirmer que ma plus grande activité, c'est de contempler Dieu d'une connaissance naturelle et d'avoir vis-à-vis de Dieu cette espèce de confiance naturelle. Je sais que je suis conduit par lui et qu'il me tient. La foi viendra préciser. Mais sans la foi, je reste dans cette indétermination, mais dans cette certitude que Dieu ne peut pas ne pas déterminer la finalité pour moi. Puisqu'il a créé mon intelligence et ma volonté, et que cette intelligence et cette volonté réclament une finalité précise, qu'elle peut momentanément rester dans l'indétermination, mais que cette indétermination ne peut pas être éternelle.